Attendra qui voudra, répondit Lindsay enflammé de colère, mais ce ne sera pas moi, et où elle sera, j'irai la chercher. À ces mots, il fit quelques pas vers la chambre à coucher de Mary Stuart. Mais au même instant, la reine ouvrit sa porte sans paraître émue, ni de la visite, ni de l'insolence du visiteur, et si belle et si pleine de majesté, que chacun, et jusqu'à Lindsay lui-même, demeura en silence à son aspect, et, comme obéissant à une force supérieure, s'inclina respectueusement devant elle. « J'ai peur de vous avoir fait attendre, mylord, » dit la reine, sans répondre autrement que par une légère inclinaison de tête au salut des ambassadeurs. « Mais une femme n'aime point à recevoir, même des ennemis, sans avoir passé quelques minutes à sa toilette. Il est vrai que les hommes tiennent moins à ce cérémonial, » ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil indicateur sur l'armure rouillée et sur le pourpoint sale et percé de Lord Lindsay. « Bonjour, Melville !» continua-t-elle sans faire attention aux quelques paroles d'excuse que balbutiait Lindsay. « Soyez le bienvenu dans ma prison, comme vous l'étiez dans mon palais, car je vous crois aussi fidèle à l'une qu'à l'autre. » Puis, se retournant vers Lindsay, qui interrogeait des yeux la porte, impatient qu'il était de voir arriver Roswen, « Vous avez là, mylord, » dit-elle en montrant du doigt le glaive qu'il portait sur son épaule, « un compagnon fidèle, quoiqu'un peu lourd. Vous seriez-vous attendu, en venant ici, à trouver des ennemis contre qui l'employer ? Dans le cas contraire, c'est une parure étrange pour se présenter devant une femme. Mais n'importe, mylord, je suis trop Stuart pour craindre la vue d'une épée, fût-elle nue, je vous en préviens. » « Elle n'est point déplacée ici, madame, » répondit Lindsay en la faisant passer devant lui et en appuyant son coude sur la croix de sa poignée, « car c'est une vieille connaissance de votre famille. » « Vos ancêtres, mylord, étaient assez braves et assez loyaux pour que je ne révoque pas en doute ce que vous me dites. Au reste, une si bonne lame a dû leur rendre de bons services. »« Oui, madame, oui, certes, elle leur en a rendu. » mais de ces services que les rois ne pardonnent point. Celui qui la fit faire pour lui fut Archibald à Tachegrelot, et il en était armé le jour où, pour justifier son nom, il alla prendre jusque sous la tente du roi Jacques III, votre aïeul, ses indignes favoris, Cochrane, Hummel, Léonard et Torpiken, qu'il fit pendre sur le pont de Lauder avec les licous des chevaux de ses soldats. C'est encore avec cette épée qu'il tua d'un seul coup, en Champclos, Spence de Kilspendy, qu'il avait insulté en présence du roi Jacques IV, comptant sur la protection que lui accordait son maître et qui ne le garantit pas plus contre elle que son bouclier qu'elle fendit en deux. À la mort de son maître, qui eut lieu 2 ans après la défaite de Flodden sur le champ de bataille, de laquelle il laissa ses 2 fils et 200 guerriers du nom de Douglas, elle passa aux mains du comte d'Angus, qui la tira du fourreau lorsqu'il chassa les Hamilton d'Édimbourg, et cela si rapidement et si complètement qu'on appela cette affaire le balayage des rues. Enfin, votre père Jacques V la vit luire au combat du pont de la Tweed, lorsque Buccleuch, soulevé par lui, voulut l'arracher à la tutelle des Douglas, et que 80 guerriers du nom de Scott restèrent sur le champ de bataille. Mais, dit la reine, « comment cette arme, après de pareils exploits, n'est-elle point restée comme un trophée dans la famille des Douglas ? Sans doute il a fallu au comte d'Angus une grande occasion pour le déterminer à se défaire en votre faveur de cette moderne Caliburn. »« Oui, sans doute, madame, ce fut dans une grande occasion, » répondit Lindsay, malgré les signes suppliants que lui faisait Melville. « Et celle-là aura du moins l'avantage sur les autres d'être assez rapprochée de nous pour que vous vous la rappeliez. C'était il y a 10 jours, sur le champ de bataille de Carberry Hill, madame, quand l'infâme Bothwell eut l'audace de publier un cartel par lequel il défiait en combat singulier quiconque oserait soutenir qu'il n'était pas innocent du meurtre du roi votre époux. Je lui fis répondre alors, moi troisième, qu'il était un assassin. » Et comme il refusait de se battre avec les 2 autres sous prétexte qu'il n'était que baron, je me présentai à mon tour, moi qui suis comte et lord. Ce fut à cette occasion que le noble comte de Morton me fit présent de cette bonne épée pour le combattre à outrance. De sorte que, s'il eût été un peu plus présomptueux ou un peu moins lâche, les chiens et les vautours mangeraient à cette heure les morceaux qu'avec l'aide de cette bonne lame je leur aurais découpés sur la carcasse de ce traître. À ces paroles, Mary Seyton et Robert Melville se regardèrent effrayés, car les événements qu'elle rappelait étaient si proches qu'ils étaient, pour ainsi dire, vivants encore dans le cœur de la reine. Mais elle, avec une impassibilité incroyable et le sourire du mépris sur les lèvres, « Il est facile, dit-elle, my lord, de vaincre un ennemi qui ne se présente point au combat. Cependant, croyez-moi, si Marie eût hérité du glaive des Stuarts, comme elle a hérité de leur sceptre, votre épée, si longue qu'elle soit, aurait pu vous paraître encore trop courte. Mais comme vous n'avez à nous raconter en ce moment, my lord, que ce que vous comptiez faire et non ce que vous avez fait, trouvez bon que je vous ramène à quelque chose de plus réel, car je ne présume pas que vous vous soyez donné la peine de venir ici purement et simplement pour ajouter un chapitre au petit traité des rodomontades espagnoles de M. de Brantôme. « Vous avez raison, madame, répondit Lindsay en rougissant de colère, et vous connaîtriez déjà l'objet de notre mission si Lord Ruthwen ne se faisait pas si ridiculement attendre. Mais, ajouta-t-il, ayez patience, la chose ne sera pas longue maintenant, car le voici. » En effet, en ce moment, on entendit des pas qui montaient l'escalier et se rapprochaient de la chambre. Et au bruit de ces pas, la reine, qui avait supporté avec tant de fermeté les insultes de Lindsay, pâlit si visiblement que Melville, qui ne la quittait pas des yeux, étendit la main vers le fauteuil comme pour le pousser vers elle. Mais la reine fit signe qu'il n'en était pas besoin et fixa avec un calme apparent son regard sur la porte. Lord Ruthwen parut. C'était la première fois qu'elle revoyait le fils depuis que Riggio avait été assassiné par le père. Lord Ruthwen était à la fois un guerrier et un homme d'État, et dans ce moment, son costume tenait de l'une et de l'autre de ses deux professions. C'était un juste corps de buffle, brodé, assez élégant pour être porté en négligé de cour, et sur lequel, au besoin, on pouvait boucler une cuirasse pour en faire une parure de bataille. Comme son père, il devait mourir jeune, et, de plus que son père, il portait sur sa physionomie cette tristesse de mauvais augure à laquelle les devins reconnaissent ceux qui doivent périr de mort violente. Lord Ruthwen réunissait en lui la dignité polie d'un homme de cour et le caractère inflexible d'un ministre. Aussi, tout décidé qu'il était à obtenir de Marie Stuart, fût-ce par la violence, ce qu'il venait lui demander au nom du régent, il ne lui fit pas moins, en entrant, un salut froid mais respectueux, auquel la reine répondit par une révérence. Puis l'intendant approcha du fauteuil vide une lourde table sur laquelle avait été préparé tout ce qu'il fallait pour écrire, et sur un signe des deux lords, sortit, laissant la reine et sa compagne seules avec les trois ambassadeurs. Alors la reine, jugeant que cette table et ce fauteuil étaient préparés pour elle, alla s'asseoir. Puis, après un moment, interrompant elle-même ce silence plus sombre qu'aucune parole n'aurait pu être, « My lord, dit-elle, vous voyez que je vous attends. Ce message que vous avez à me communiquer est-il donc si terrible que deux hommes de guerre, aussi renommés que le sont Lord Lindsay et Lord Ruthwen, hésitent au moment de me le transmettre ?»« Madame, répondit Ruthwen, je ne suis pas d'une famille, vous le savez, qui hésite jamais à remplir un devoir, si pénible qu'il soit. Au reste, nous espérons que votre captivité vous a préparé à entendre ce que nous avons à vous dire de la part du Conseil secret. » « Le Conseil secret !» dit la reine. « Et de quel droit, institué par moi, agit-il sans moi ? N'importe, j'attends ce message. Je présume que c'est une pétition pour implorer ma miséricorde en faveur des hommes qui ont osé toucher à un pouvoir que je ne tenais que de Dieu. » « Madame, répondit Ruthwen, qui paraissait s'être chargé du rôle pénible d'orateur, tandis que Lindsay, muet et impatient, tourmentait la poignée de sa longue épée, « il m'est pénible d'avoir encore à vous détromper sur ce point. Ce n'est point votre miséricorde que je viens vous demander, c'est au contraire le pardon du conseil secret que je viens vous offrir. » « À moi, my lord, à moi !» s'écria Marie. « Des sujets offrent le pardon à leur reine ?» « Oh, la chose est si nouvelle et si miraculeuse que la surprise l'emporte chez moi sur l'indignation et que je vous prierai de continuer au lieu de vous arrêter là comme je devrais peut-être le faire. Et je vous obéirai d'autant plus volontiers, madame, » continua Ruthwen sans se troubler, que ce pardon n'est accordé qu'à certaines conditions consignées dans ses actes destinées à rétablir la tranquillité de l'État, si cruellement compromise par les fautes qu'il vient de réparer. Et me sera-t-il permis, mylord, de lire ces actes, ou dois-je, entraîné par ma confiance en ceux qui me les présentent, les signer les yeux fermés ? Répondit Rousouen. Non, madame, répondit Rousouen. Le conseil secret désire au contraire que vous en preniez connaissance, car c'est librement que vous devez les signer. Lisez-moi donc ces actes, mylord, car cette lecture est, je crois, dans les fonctions étranges que vous avez acceptées. Lord Rousouen prit l'un des deux papiers qu'il tenait à la main et lut, avec son impassibilité de voix ordinaire, la pièce suivante. Appelé dès ma plus tendre jeunesse au gouvernement du royaume et à la couronne d'Écosse, j'ai donné tous mes soins à l'administration. Mais j'ai éprouvé tant de fatigues et de peines que je ne me trouve plus l'esprit assez libre, ni les forces assez grandes pour supporter le fardeau des affaires de l'État. En conséquence, et comme la faveur divine nous a accordé un fils, à qui nous désirons voir porter de notre vivant la couronne qui lui est acquise par droit de naissance, nous avons résolu de nous démettre, et nous démettons en sa faveur, par ses présentes, librement et volontairement, de tous nos droits à la couronne et au gouvernement de l'Écosse, voulant qu'il monte sur le champ au trône, comme s'il y était appelé par notre mort naturelle et non par l'effet de notre propre volonté. Et pour que notre présente abdication ait un effet plus complet et plus solennel, et que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, nous donnons plein pouvoir à nos féaux et fidèles cousins, les lords Lindsay de Byre et William Ruthven, de comparaître en notre nom devant la noblesse, le clergé et les bourgeois d'Écosse, dont ils convoqueront une assemblée à Stirling, et d'y renoncer publiquement et solennellement, de notre part, à tous nos droits à la couronne et au gouvernement de l'Écosse. Signé librement et comme le témoignage d'une de nos dernières volontés royales, en notre château de Lochleven, le juin 1567. La date était en blanc. Il se fit un moment de silence après cette lecture. Puis, « Avez-vous entendu, madame ?» demanda Rousouen. « Oui, répondit Mary Stuart. Oui, j'ai entendu des paroles rebelles que je n'ai pas comprises, et j'ai pensé que mes oreilles, connaissées d'habituer depuis quelque temps à un étrange langage, me trompaient encore, et cela je l'ai pensé pour votre honneur, mylord William Rousouen et mylord Lindsay de Byre. » Madame, répondit Lindsay, impatienté d'avoir gardé si longtemps le silence, « notre honneur n'a rien à faire de l'opinion d'une femme qui a su si mal veiller sur le sien. » « My lord !» dit Melville en hasardant un mot. « Laissez-le dire, Robert !» répondit la reine. « Nous avons dans notre conscience une cuirasse aussi bien trempée que celle dont est si prudemment revêtue My Lord Lindsay, quoique, à la honte de la justice, nous n'ayons plus de glaive. « Continuez, my lord !» reprit la reine en se retournant vers Lord Rousouen. « Est-ce tout ce que mes sujets requièrent de moi, une date et une signature ?» Ah, c'est trop peu sans doute, et ce second papier que vous avez gardé pour observer la gradation contient probablement quelques demandes plus difficiles à accorder que celle de céder à un enfant âgé d'un an à peine une couronne qui m'appartient par droit de naissance et d'abandonner mon sceptre pour prendre une quenouille. Cet autre papier, répondit Rousouen, sans se laisser intimider par le ton d'amère ironie qu'avait pris la reine. Et l'acte par lequel votre grâce confirme la décision du conseil secret qui a nommé votre frère bien-aimé, le comte de Murray, régent du royaume. Comment donc, reprit Marie, le conseil secret pense qu'il a besoin de ma confirmation pour un acte de si peu d'importance, et mon frère bien-aimé, pour le porter sans remords, a besoin que ce soit moi qui ajoute un nouveau titre à ceux de comte de Mar et de Murray que je lui ai déjà donné. Mais tout cela est on ne peut plus respectueux et plus touchant, et j'aurai grand tort de me plaindre. My lords, continua la reine en se levant et en changeant de ton, retournez vers ceux qui vous ont envoyé, et dites-leur qu'à de pareilles demandes, Mary Stuart n'a point de réponse à faire. Prenez garde, madame, répondit Rousouen, car je vous l'ai dit, ce n'est qu'à ces conditions que votre pardon peut vous être accordé. Et si je refuse ce pardon généreux, demanda Marie. « Qu'arrivera-t-il » Je ne puis pas préjuger sur un arrêt, madame. Mais votre grâce connaît assez les lois, et surtout l'histoire de l'Écosse et de l'Angleterre, pour savoir que le meurtre et l'adultère sont des crimes pour lesquels plus d'une reine a été punie de mort. Et sur quelle preuve fournerait-on une accusation pareille, my lord ? Pardon de mon insistance qui vous prend un temps précieux, mais je suis assez intéressé à la chose pour qu'on me permette une pareille question. La preuve, madame, répondit Rousouen, il n'y en a qu'une, je le sais, mais celle-là est irrécusable. C'est le mariage précipité de la veuve de l'assassiné avec le chef des assassins et les lettres qui nous ont été remises par Jacques de Balfour qui prouvent que les coupables avaient uni leurs cœurs adultères avant qu'il ne leur fût permis d'unir leurs mains sanglantes. My lord, s'écria la reine, oubliez-vous certains repas donnés dans une taverne de Londres par ce même Boswell à ces mêmes nobles qui le traitent aujourd'hui d'adultère et de meurtrier? Oubliez-vous qu'à la suite de ce repas, et sur la table même où il avait été donné, un écrit fut signé pour inviter cette même femme à qui vous faites aujourd'hui un crime, de la rapidité de ses nouvelles noces, à quitter le deuil de veuve pour revêtir la robe d'épousée? Car si vous l'avez oublié, my lord, ce qui ne ferait pas plus d'honneur à votre sobriété qu'à votre mémoire, je me chargerai de vous la remettre sous les yeux, moi qui l'ai conservée, et peut-être qu'en cherchant bien, nous trouverions au nombre des signatures les noms de Lindsay de Byre et de Williams Rousouen. « Oh, noble Lord Eris ! » s'écria Marie. « Loyal Jacques Melville, vous seul aviez donc raison quand vous vous jetiez à mes pieds en me suppliant de ne point conclure ce mariage qui n'était, je le vois bien aujourd'hui, qu'un piège tendu à une femme ignorante par des conseillers perfides ou des seigneurs déloyaux. » « Madame, s'écria Rousouen, commençant, malgré sa froide impassibilité, à s'emporter lui-même, tandis que Lindsay donnait des signes encore plus bruyants et moins équivoques d'impatience. « Madame, toutes ces discussions nous éloignent de notre but. Revenez-y donc, je vous prie, et dites-nous si, votre vie et votre honneur assurés, vous consentez à vous démettre de la couronne d'Écosse. » Et quelle garantie aurais-je que les promesses que vous me faites ici seront tenues ? « Notre parole, madame, » répondit fièrement Rousouen. « Votre parole, my lord, c'est un bien faible gage à offrir quand on oublie si vite sa signature. N'auriez-vous pas quelques bagatelles à y ajouter pour me faire un peu plus tranquille que je ne le serais avec elle ?»« Assez, Rousouen, assez !» s'écria Lindsay. « Ne voyez-vous pas que depuis une heure, cette femme ne répond que par des insultes à toutes nos propositions ?» « Oui, partons, » dit Rousouen, « et ne vous en prenez qu'à vous, madame, le jour où se brisera le fil qui retient l'épée suspendue sur votre tête. »« My lord, » s'écria Melville, « my lord, au nom du ciel, un peu de patience et pardonnez quelque chose à celle qui, habituée à commander, est aujourd'hui forcée d'obéir. » Eh bien, dit Lindsay en se retournant, restez donc auprès d'elle et tâchez d'obtenir par vos paroles dorées ce qu'on refuse à notre franche et loyale demande. Dans un quart d'heure, nous reviendrons, dans un quart d'heure, que la réponse soit prête. À ces mots, les deux seigneurs sortirent, laissant Melville avec la reine. Et l'on put compter leurs pas au bruit que faisait la grande épée de Lindsay en retentissant sur chaque marche de l'escalier. À peine furent-ils seuls que Melville se jeta aux pieds de la reine. « Madame, lui dit-il, vous disiez tout à l'heure que Lord Eris et mon frère avaient donné à votre majesté un conseil qu'elle se repentait de n'avoir point suivi. Eh bien, madame, songez à celui que je vous donne à mon tour, car il est plus important que l'autre, car vous regretterez avec plus d'amertume encore de ne pas l'avoir écouté. Ah, vous ne savez pas ce qui peut arriver, vous ignorez ce dont votre frère est capable. » « Il me semble cependant, répondit la reine, qu'il vient de m'instruire sous ce rapport. Que fera-t-il de plus que ce qu'il a déjà fait ? Un procès public ? Oh, c'est tout ce que je demande. Qu'il me laisse seulement plaider ma cause et nous verrons quels juges oseront me condamner. » Aussi, voilà ce qu'ils se garderont bien de faire, madame. Car il faudrait qu'ils fussent insensés quand ils vous tiennent ici dans ce château isolé, sous la garde de vos ennemis, n'ayant pour témoin que Dieu qui venge le crime, mais qui ne le prévient pas. Rappelez-vous, madame, ce qu'a dit Machiavel. Jamais le tombeau d'un roi n'est loin de sa prison. Vous êtes d'une famille où l'on meurt jeune, madame, et presque toujours d'une mort fatale. Deux de vos aïeux ont péri par le fer et un par le poison. »
Oh, si la mort était prompte et facile, s'écria Marie. Oui, je l'accepterai comme une expiation de mes fautes. Car si je suis fière quand je me compare, Melville, je suis humble quand je me juge. C'est injustement qu'on m'accuse d'être complice de la mort de Darnley, mais c'est justement qu'on me condamne pour avoir épousé Boswell.
Le temps presse, madame, le temps presse, s'écria Melville en regardant le sablier qui, posé sur la table, mesurait les heures. Ils vont revenir. Dans un instant, ils seront ici, et cette fois, il leur faudra une réponse. Écoutez, madame, et tirez du moins de votre position tout le parti possible. Vous êtes ici seule avec une femme, sans amis, sans garde, sans pouvoir. Une abdication signée dans une pareille conjoncture ne paraîtra jamais à votre peuple avoir été accordée librement, mais passera toujours pour avoir été arrachée par la force. Et s'il le faut, madame, si le jour vient de faire valoir une protestation, eh bien alors vous aurez deux témoins de la violence qui vous aura été faite. L'un sera Marie Seyton, et l'autre, ajouta-t-il à voix basse et en regardant avec inquiétude autour de lui, l'autre sera Robert Melville.
À peine achevait-il ces mots que l'on entendit de nouveau dans l'escalier les pas des deux lords qui revenaient avant même que le quart d'heure fût écoulé. Un instant après, la porte s'ouvrit et Rouswen parut, tandis qu'au-dessus de son épaule, on apercevait la tête de Lindsay.
Madame, dit Rouswen, nous voici de retour. Votre grâce est-elle décidée? Nous venons chercher sa réponse.
Oui, dit Lindsay, poussant de côté Rouswen qui lui barrait le passage. Et s'avançant vers la table,
oui, une réponse nette, précise, positive et sans arrière-pensée.
« Vous êtes exigeant, my lord, » dit la reine. « À peine auriez-vous le droit d'attendre cela de moi si j'étais de l'autre côté du lac, en pleine liberté et entourée d'une escorte fidèle. Mais, entre ces murs, derrière ces barreaux, au fond de cette forteresse, je vous dirai que je signe volontairement que vous ne le croiriez pas. Mais n'importe, vous voulez ma signature, eh bien je vais vous la donner. Melville, passez-moi la plume. »
« J'espère cependant, » dit lord Rouswen, que votre grâce ne compte pas arguer un jour de la position où elle se trouve pour protester contre ce qu'elle va faire. »
Déjà la reine était penchée pour écrire, déjà elle avait posé la main sur le papier lorsque lord Rouswen lui adressa ces paroles. Mais à peine furent-elles prononcées qu'elle se releva fièrement et, laissant tomber la plume,
« My lord, lui dit-elle, tout à l'heure ce que vous me demandiez n'était qu'une abdication pure et simple et j'allais la signer. » Mais si à cette abdication est jointe cette apostille que je renonce de mon propre mouvement et comme m'en jugeant indigne au trône d'Écosse, c'est ce que je ne ferai pas pour les trois couronnes réunies que l'on m'a volées tour à tour.
« Prenez garde, madame !» s'écria Lord Lindsay, saisissant le bas du poignet de la reine avec son gantelet de fer et le serrant de toute la force de sa colère. « Prenez garde, car notre patience est à bout et nous pourrions bien finir par rompre ce qui ne voudrait pas plier. »
La reine resta debout et, quoiqu'une rougeur violente eût passé comme une flamme sur son visage, elle ne dit pas un mot et ne fit pas un mouvement. Seulement, ses yeux se fixèrent avec une expression de mépris si grande sur les yeux du grossier baron que celui-ci, plein de honte de l'emportement auquel il s'était laissé aller, lâcha la main qu'il avait saisie et fit un pas en arrière. Alors, relevant la manche de sa robe et montrant les traces violettes imprimées à son bras par le gantelet de fer de Lord Lindsay,
« Voilà ce que j'attendais, my lord, » dit-elle aux ambassadeurs, « et rien ne m'arrête plus pour signer. Oui, j'abdique librement le trône et la couronne d'Écosse, et voilà la preuve que ma volonté n'a point été forcée. »
À ces mots, elle prit la plume et signa rapidement les deux actes, les tendit à Lord Rouswen, et faisant un salut plein de dignité, elle se retira lentement dans sa chambre, accompagnée de Marie Seyton. Rouswen la suivit des yeux, et lorsqu'elle eut disparu,
« N'importe, dit-il, elle a signé, et quoique le moyen que vous avez employé, Lindsay, soit assez inusité en diplomatie, il n'en est pas moins efficace, à ce qu'il paraît. » Ne plaisantez pas, Rouswen, dit Lindsay, car c'est une noble créature, et si j'avais osé, je me serais jeté à ses pieds pour lui demander pardon.
Il en est encore temps, répondit Rouswen, et Marie, dans la situation où elle est, ne vous tiendra pas rigueur. Peut-être est-elle résolue à en appeler au jugement de Dieu pour prouver son innocence. Peut-être est-elle résolue d'en appeler au jugement de Dieu pour prouver son innocence. Et dans ce cas, un champion tel que vous pourrait bien changer la face des choses.
Ne plaisantez pas, Rouswen, reprit une seconde fois Lindsay, avec plus de violence que la première. Car si j'avais la conviction de son innocence aussi bien que j'ai celle de son crime, je vous réponds que personne ne toucherait un cheveu de sa tête, pas même le régent.
Diable, mylord, dit Rouswen, je ne vous savais pas si impressionnable à une douce voix et à un œil en pleurs. Vous connaissez l'histoire de la lance d'Achille qui guérissait avec sa rouille les blessures qu'elle faisait avec son tranchant. Faites comme elle, mylord, faites.
Assez, Rouswen, assez, répondit Lindsay. Vous ressemblez à une cuirasse d'acier de Milan qui est trois fois plus brillante qu'une armure de Glasgow, mais qui est en même temps trois fois plus dure. Nous nous connaissons tous deux, Rouswen. Aussi, trêve de railleries ou de menaces. Assez, croyez-moi, assez.
Et après ces paroles, Lord Lindsay sortit le premier, suivi de Rouswen et de Melville. Le premier, tête haute et affectant un air d'insolente indifférence, et le second triste, le front penché et ne cherchant pas même à dissimuler l'impression douloureuse que lui avait faite cette scène.
La reine ne sortit de sa chambre que le soir pour venir prendre sa place à la fenêtre qui donnait sur le lac. À l'heure accoutumée, elle vit briller dans la petite maison de Kinross la lumière qui faisait désormais sa seule espérance. Pendant tout un long mois, elle n'eut d'autre consolation que de la revoir chaque nuit fixe et fidèle. Enfin, au bout de ce temps, et comme elle commençait à désespérer de revoir George Douglas, un matin, en ouvrant la fenêtre, elle poussa un cri. Mary Seyton accourut, et la reine, sans avoir la force de prononcer une parole, lui montra au milieu du lac la petite barque à l'ancre, et dans la barque, le petit Douglas et George qui se livraient à la pêche, leur amusement favori. Le jeune homme était arrivé de la veille, et comme chacun était habitué à ses retours inattendus, la sentinelle n'avait pas même sonné du cor, et la reine n'avait pas su qu'enfin il lui revenait un ami. Cependant, elle fut trois jours encore sans voir cet ami autrement qu'elle ne venait de le faire, c'est-à-dire sur le lac. Il est vrai que du matin au soir, George Douglas ne quittait pas cet endroit, d'où il pouvait contempler les fenêtres de la reine et la reine elle-même, lorsque, pour découvrir un plus large horizon, elle appuyait son visage contre les barreaux. Enfin, le matin du quatrième jour, la reine fut réveillée par un grand bruit de chiens et de corps. Elle courut aussitôt à sa fenêtre, car pour le prisonnier, tout est événement, et elle vit William Douglas qui s'embarquait avec une meute et des piqueurs. En effet, faisant trêve pour un jour à ses fonctions de geôlier, pour prendre un plaisir plus en harmonie avec son rang et avec sa naissance, il allait chasser dans les bois qui couvrent la dernière croupe de Ben Lomond, et qui viennent, en s'abaissant toujours, mourir sur les rives du lac. La reine tressaillit de joie, car elle espéra que Lady Lochleven lui conserverait rancune, et qu'alors George remplacerait son frère. Cette espérance ne fut pas trompée. À l'heure accoutumée, la reine entendit les pas de ceux qui lui apportaient son déjeuner. La porte s'ouvrit, et elle vit entrer George Douglas, précédant les domestiques qui portaient les plats. George la salua à peine, mais la reine avait été prévenue par lui de ne s'étonner de rien. Elle lui rendit son salut d'un air dédaigneux. Puis les domestiques remplirent leur office et sortirent comme ils en avaient l'habitude.
« Enfin, dit la reine, vous voilà donc de retour !»
George fit un signe du doigt, s'en alla écouter à la porte si tous les domestiques s'éloignaient bien réellement et si aucun n'était resté là pour les espionner. Alors, revenant plus tranquille et s'inclinant respectueusement, « Oui, madame, lui répondit-il, et grâce au ciel, porteur de bonnes nouvelles. »«
Oh, dites vite !» s'écria la reine, « car c'est un enfer qu'un séjour dans ce château. Vous avez su qu'ils y étaient venus, n'est-ce pas, et qu'ils m'avaient forcé à signer une abdication ?»«
« Oui, madame, répondit Douglas, mais nous avons su aussi que la violence seule avait pu obtenir de vous cette signature, et notre dévouement à votre majesté s'en est augmenté encore, s'il est possible. »
« Mais enfin, qu'avez-vous fait ?»
Les Seyton et les Hamilton, qui sont, comme votre majesté le sait, les plus fidèles de ses serviteurs, Marie se retourna en souriant et tendit la main à Marie Seyton. « Ont déjà, continua Georges, rassemblé leurs troupes qui se tiennent prêtes au premier signal. Cependant, comme à eux seuls ils ne seraient pas en nombre suffisant pour tenir la campagne, nous nous dirigerons directement sur Dumbarton, dont le gouverneur est à nous et qui, par sa situation et par sa force, peut tenir assez longtemps contre toutes les troupes du régent pour donner aux cœurs fidèles qui vous resteront le temps de venir nous rejoindre. »
« Oui, oui, dit la reine, je vois bien ce que nous ferons une fois sortis d'ici, mais comment en sortirons-nous ? »
« Voilà la circonstance, madame, répondit Douglas, pour laquelle il faudra que votre majesté rappelle à elle ce courage dont elle a donné de si grandes preuves.
« Si je n'ai besoin que de courage et de sang-froid, répondit la reine, soyez tranquille, ni l'un ni l'autre ne me manqueront. »
« Voici une lime, dit Georges en remettant à Marie Seyton cet instrument qu'il jugeait indigne de toucher les mains de la reine, et ce soir j'apporterai à votre majesté des cordes pour faire une échelle. Vous cirez un des barreaux de cette fenêtre, elle n'est élevée que de 20 pieds. Je monterai à vous autant pour l'essayer que pour vous soutenir. Un des hommes de la garnison m'est vendu, il nous livrera passage par la porte qu'il sera chargé de garder, et vous serez libre. »
« Et quand cela ?» s'écria la reine.
« Il faut attendre deux choses, madame, répondit Douglas. La première, c'est que nous ayons réuni à Kinross une escorte suffisante à la sûreté de votre majesté. La seconde, c'est que le tour de garde nocturne de Thomas Warden arrive à une porte isolée que nous puissions gagner sans être vus. »
« Et comment saurez-vous cela ? Restez-vous donc au château ? » ?»«
Hélas non, madame, répondit Georges. « Au château, je suis pour vous un ami inutile et même dangereux, tandis qu'une fois au-delà du lac, je puis vous servir d'une manière efficace. »
« Et comment saurez-vous que le tour de garde de Warden est arrivé ?»
La flamme de la girouette de la tour du Nord, au lieu de tourner avec les autres au vent, restera fixée contre lui.
« Mais moi, comment serais-je prévenu ?»
Tout est encore prévu de ce côté. La lumière qui brille chaque nuit dans la petite maison de Kinross vous dit incessamment que vos amis veillent sur vous. Mais lorsque vous voudrez savoir si l'heure de votre délivrance s'approche ou est reculée, placez à votre tour une lumière devant cette fenêtre. Aussitôt, l'autre disparaîtra. Alors comptez, en mettant la main sur votre poitrine, les battements de votre cœur. Si vous arrivez jusqu'au nombre 20 sans que la lumière reparaisse, rien n'est fixé encore. Si vous arrivez seulement jusqu'au nombre de 10, c'est que le moment approche. Si la lumière ne vous laisse pas le temps de compter au-delà de 5, c'est que votre évasion est fixée à la nuit du lendemain. Si elle ne reparaît plus, c'est que c'est pour le soir même. Alors le cri de la chouette, répété 3 fois dans la cour, sera le signal. Jetez donc l'échelle quand vous l'entendrez.
« Oh, Douglas !» s'écria la reine, « il n'y avait que vous pour tout prévoir et tout calculer ainsi. » « Merci, 100 fois, merci !»
Et elle lui tendit sa main à baiser. Une vive rougeur colora les joues du jeune homme, mais presque aussitôt, se rendant maître de son émotion, il mit un genou en terre et, refermant en lui-même l'expression de cet amour dont il avait parlé une seule fois à la reine, en lui promettant de ne lui en plus parler jamais, il prit la main que lui tendait Marie et la baisa avec tant de respect que nul n'aurait pu voir autre chose dans cette action que l'hommage du dévouement et de la fidélité. Puis, ayant salué la reine, il sortit pour qu'un plus long séjour auprès d'elle n'inspirât point de soupçons. À l'heure du dîner, Douglas apporta, comme il l'avait dit, un paquet de cordes. Il était insuffisant, mais le soir, Marie Seyton le déroulerait en laissant pendre le bout par la fenêtre et Georges y attacherait le reste. La chose se fit comme elle avait été dite et sans accident aucun, 1 heure après que les chasseurs furent revenus. Le lendemain, Georges avait quitté le château. La reine et Marie Seyton n'avaient point perdu de temps pour se mettre à l'échelle de corde, aussi le 3e jour était-elle achevée. Le même soir, la reine, dans son impatience, et plutôt encore pour s'assurer de la vigilance de ses partisans que dans l'espoir que le terme de sa délivrance était si proche, approcha sa lampe de la fenêtre. Aussitôt, et comme le lui avait dit George Douglas, la lumière de la petite maison de Kinross disparut. La reine, alors, mit la main sur son cœur et compta jusqu'à 22. Puis la lumière reparut. On se tenait prêt à tout, mais rien n'était encore arrêté. Pendant 8 jours, la reine interrogea ainsi la lumière et les battements de son cœur, sans que rien fût changé dans le nombre des chiffres. Enfin, le 9e jour, elle compta jusqu'à 10 seulement. Au 11e, la lumière reparut. La reine crut s'être trompée, elle n'osait espérer ce qu'on lui annonçait. Elle retira la lampe, puis, au bout d'un quart d'heure, la représenta de nouveau. Le correspondant inconnu comprit, avec son intelligence ordinaire, que c'était une nouvelle épreuve qu'on lui demandait, et, à son tour, la lumière de la petite maison disparut. Marie interrogea de nouveau les pulsations de son cœur, et si rapide qu'il bondit, avant le 12e battement, l'étoile propice brillait à l'horizon. Il n'y avait plus de doute, tout était arrêté. Marie ne put dormir de toute la nuit. Cette persistance de ses partisans lui inspirait une reconnaissance qui allait jusqu'aux larmes. Le jour vint, et la reine interrogea plusieurs fois sa compagne pour s'assurer que ce n'était point un rêve qu'elle avait fait. À chaque bruit qu'elle entendait, il lui semblait que le projet d'où dépendait sa liberté était découvert, et lorsque, à l'heure du déjeuner et du dîner, William Douglas entra comme d'habitude, à peine osa-t-elle le regarder, de peur de lire sur son visage l'annonce que tout était perdu. Le soir, la reine interrogea de nouveau la lumière. Elle fit la même réponse. Rien n'avait changé, le phare était toujours à l'espoir. Pendant 5 jours, il continua d'indiquer ainsi, comme proche, le moment de l'évasion. Le soir du 6e, avant que la reine eût compté 5 pulsations, la lumière reparut. La reine s'appuya sur Mary Seyton. Elle avait failli s'évanouir tout à la fois de joie et de crainte. Son évasion était fixée pour la soirée du lendemain. La reine renouvela l'épreuve et obtint la même réponse. Il n'y avait plus de doute, tout était prêt, excepté le courage de la prisonnière, car pour un instant il lui manqua, et si Mary Seyton n'eût approché à temps un siège, elle fût tombée de toute sa hauteur. Mais le premier moment passé, elle se remit comme d'habitude et se retrouva plus forte et plus résolue que jamais. Jusqu'à minuit, la reine demeura à la fenêtre, les yeux fixés sur cette bienheureuse lumière. Enfin, Mary Seyton obtint d'elle qu'elle se couchât, lui offrant, si elle ne voulait pas dormir, de lui lire quelques vers de M. Ronsard ou quelques chapitres de la Mère des Histoires. Mais Mary ne voulut entendre en ce moment aucune lecture profane et se fit lire ses heures, répondant aux prières comme elle eût fait si elle eût assisté à une messe dite par un prêtre catholique. Vers le jour, cependant, elle s'assoupit, et comme Mary Seyton, de son côté, tombait de fatigue, elle s'endormit aussitôt dans le fauteuil qui était au chevet du lit de la reine. Le lendemain, elle se réveilla en sentant qu'on lui frappait sur l'épaule. C'était la reine qui était déjà levée. « Viens donc voir, mignonne !» lui dit-elle. « Viens donc voir le beau jour que Dieu nous donne !» Oh, comme la nature est vivante, comme j'aurai du bonheur à me retrouver libre par ces plaines et par ces montagnes. Décidément, le ciel est pour nous. Madame, répondit Marie, j'aimerais mieux voir un temps moins beau. Il nous promettrait une nuit plus sombre. Et songez-y, ce qu'il nous faut, c'est de l'obscurité et non de la lumière. Écoute, dit la reine, c'est à cela que nous allons reconnaître si véritablement Dieu est pour nous. Si le temps reste ainsi qu'il est, oui, tu as raison, c'est qu'il nous abandonne. Mais s'il se couvre, oh, alors, mignonne, n'est-ce pas, ce sera une preuve évidente de sa protection. Mary Seyton sourit en faisant le signe de la tête qu'elle adoptait la superstition de sa maîtresse. Alors la reine, incapable de demeurer oisive dans une si grande préoccupation d'esprit, réunit les quelques bijoux qu'elle avait conservés, les enferma dans une cassette, apprêta pour le soir une robe noire afin de se perdre encore mieux dans l'obscurité. Puis, ses préparatifs terminés, elle revint s'asseoir à sa fenêtre, reportant sans cesse ses yeux du lac sur la petite maison de Kinross, close et muette comme d'habitude. L'heure du déjeuner arriva. La reine était si heureuse qu'elle reçut William Douglas avec plus de bienveillance que de coutume, et que ce fut à grand-peine si elle put rester assise tout le temps que dura le repas. Cependant, elle se contint et Williams Douglas se retira sans paraître avoir remarqué son agitation. À peine fut-il sorti que Marie courut à la fenêtre. Elle avait soif d'air et d'avance dévorait des yeux ces vastes horizons qu'elle allait de nouveau franchir. Il lui semblait qu'une fois libre, elle ne se renfermerait plus jamais dans un palais, mais serait sans cesse errante par la campagne. Puis, au milieu de tous ces tressaillements de joie, il lui prenait de temps en temps un serrement de cœur inattendu. Alors elle se retournait vers Mary Seyton, essayant de retremper sa force dans la sienne, et la jeune fille la soutenait, plutôt encore par devoir que par conviction. Si lente qu'elle parussent à la reine, les heures passaient cependant. Vers l'après-midi, quelques nuages traversèrent en flottant l'azur du ciel. La reine les fit remarquer avec joie à sa compagne. Mary Seyton s'applaudit, non point à cause du présage imaginaire qui cherchait la reine, mais à cause de l'importance réelle que le temps fut couvert pour que l'obscurité vînt en aide à leur fuite. Comme les deux prisonnières suivaient au ciel leurs vagues vaporeuses et mouvantes, le moment du dîner arriva. C'était encore une demi-heure de contrainte et de dissimulation, d'autant plus pénible que, sans doute, reconnaissant de l'espèce de bienveillance que la reine lui avait montrée le matin, William Douglas se crut obligé, à son tour, d'accompagner ses fonctions de quelques compliments d'usage qui forcèrent la reine de prendre à la conversation une part plus active que sa préoccupation d'esprit ne le lui permettait. Au reste, William Douglas ne parut aucunement remarquer ses absences et tout se passa comme au déjeuner. Aussitôt qu'il fut sorti, la reine courut à la fenêtre. Les quelques nuages qui couraient dans le ciel une heure auparavant s'étaient épaissis et étendus, et tout azur s'était effacé pour faire place à une teinte terne et mate comme celle de l'étain. Les pressentiments de Mary Stuart se réalisaient donc. Quant à la petite maison de Kinross, qu'on apercevait encore dans le crépuscule, elle était toujours fermée et semblait solitaire. La nuit vint. La lumière brilla comme d'habitude, la reine fit le signal, elle disparut. Mary Stuart attendit vainement, tout resta dans l'ombre. C'était pour le soir même. La reine entendit successivement sonner 8 heures, 9 heures et 10 heures. À 10 heures, on releva les sentinelles. Mary Stuart entendit les patrouilles passer sous ses fenêtres, les pas de la ronde s'éloignaient, puis tout rentra dans le silence. Une demi-heure s'écoula ainsi. Tout à coup, le cri de la chouette retentit 3 fois. La reine reconnut le signal de George Douglas. Le moment suprême était venu. C'était dans ces circonstances que la reine retrouvait toute sa force. Elle fit signe à Mary Seyton d'enlever le barreau et de fixer l'échelle de corde, tandis qu'éteignant la lumière, elle alla chercher à tâtons, dans sa chambre à coucher, la cassette qui contenait les quelques bijoux qui lui restaient. Lorsqu'elle revint, George Douglas était déjà dans la chambre. « Tout va bien, madame, lui dit-il. Vos amis vous attendent de l'autre côté du lac. Thomas Warden veille à la poterne et Dieu nous a envoyé une nuit sombre. » La reine, sans lui répondre, lui tendit la main. George fléchit le genou et porta cette main à ses lèvres, mais en la touchant, il la sentit tremblante et glacée. « Madame, lui dit-il, au nom du ciel, rappelez tout votre courage et ne vous laissez point abattre en un pareil moment. »« Notre-Dame de bon secours, murmura Mary Seyton, venez nous en aide. »« Appelez à vous l'esprit des rois, vos aïeux, répondit George. Car à cette heure, ce n'est point la résignation d'une chrétienne qu'il vous faut, mais la force et la résolution d'une reine. » « Oh, Douglas, Douglas !» s'écria douloureusement Marie. « Un devin m'a prédit que je mourrais en prison et de mort violente. L'heure de la prédiction n'est-elle point arrivée ?»« Peut-être, dit Georges, mais mieux vaut mourir en reine que de vivre en ce vieux château, prisonnière et calomniée. » « Vous avez raison, Georges, dit la reine, mais le premier mouvement est tout à la femme. Pardonnez-moi. » Puis, après une pause d'un instant, « Allons, dit-elle, je suis prête. » Georges alla aussitôt à la fenêtre, assura de nouveau l'échelle et d'une manière plus solide, puis, montant sur l'appui et se tenant d'une main au barreau, il tendit l'autre à la reine, qui, aussi résolue qu'un instant auparavant elle était craintive, monta sur un tabouret et avait déjà posé un pied sur le rebord de la croisée lorsque tout à coup le cri «
Qui vive ?
Retentit au pied de la cour. La reine se rejeta vivement en arrière, moitié par instinct, moitié repoussée par Georges, qui, au contraire, se pencha hors de la fenêtre pour voir d'où venait ce cri, qui, deux fois renouvelé encore, resta deux fois sans réponse et fut bientôt suivi de la détonation et de la lumière d'une arme à feu. Au même instant, la sentinelle en faction sur la tour sonna du cor, une autre mit en branle la cloche d'alarme et les cris « Aux armes ! Aux armes !» et « Trahison ! Trahison !» retentirent par tout le château.
« Oui, oui, trahison ! Trahison !» s'écria George Douglas en sautant dans la chambre. « Oui, l'infâme Warden nous a trahis !»
Puis, s'avançant vers Marie, froide et immobile comme une statue,
« Du courage, madame, lui dit-il, du courage, quelque chose qui arrive, il vous reste encore un ami dans le château, c'est le petit Douglas. »
À peine avait-il achevé ces mots que la porte de l'appartement de la reine s'ouvrit et que William Douglas et Lady Lochleven, précédés de serviteurs portant des torches et de soldats armés, parurent sur le seuil. L'appartement se trouva aussitôt plein de monde et de lumière.
« Ma mère !» dit William Douglas, montrant son frère debout devant Marie Stuart et la couvrant de son corps. « Me croyez-vous maintenant ? Regardez !»
La vieille lady fut un moment sans pouvoir répondre. Puis enfin, retrouvant la parole et faisant un pas en avant,
« Parlez, George Douglas ! S'écria-t-elle. « Parlez et lavez-vous à l'instant même de l'accusation qui pèse sur votre honneur. Dites ces seules paroles, un Douglas n'a jamais manqué à son devoir et je vous crois. »
« Oui, ma mère, reprit William, un Douglas. Mais lui, lui, ce n'est pas un Douglas. »
« Que Dieu accorde à ma vieillesse la force nécessaire, s'écria Lady Lochleven, pour supporter de la part d'un de mes fils un pareil malheur et de la part de l'autre une pareille injure. Ô femme née sous un astre funeste, continua-t-elle en s'adressant à la reine, quand cesseras-tu donc d'être, aux mains du démon, un instrument de perdition et de mort pour tout ce qui t'approche ? Ô vieille maison de Lochleven, maudite soit l'heure où cette enchanteresse a franchi ton seuil !»«
Ne dites pas cela, ma mère, ne dites pas cela !» s'écria Georges. « Bénis au contraire l'instant qui prouve que s'il est des Douglas qui ne se souviennent plus de ce qu'ils doivent à leur souverain, il y en a d'autres qui ne l'ont jamais oublié. »
« Douglas, Douglas !» murmura Marie Stuart. « Ne vous l'avais-je pas dit ?»«
Et moi, madame, dit Georges, que vous avais-je répondu alors ? Que c'était à tout fidèle sujet de votre majesté un devoir et un honneur de mourir pour elle. »«
Eh bien, meurs donc !» s'écria William Douglas, s'élançant sur son frère l'épée haute, tandis que celui-ci, faisant un bond en arrière, tirait la sienne et, par un mouvement rapide comme la pensée et ardent comme la haine, se mettait en défense. Mais au même instant, Marie Stuart s'élança entre les deux jeunes gens.
« Ne faites pas un pas de plus, Lord Douglas, dit-elle. Remettez votre épée au fourreau, Georges, ou, si vous vous en servez, que ce soit pour sortir d'ici et contre tout autre que votre frère. J'ai besoin encore de votre vie, ménagez-la. »
« Ma vie, comme mon bras et comme mon honneur, est à votre disposition, madame, et dès que vous l'ordonnerez, je la conserverai pour vous. »
À ces mots, s'élançant vers la porte avec une violence et une résolution qui ne permettaient point qu'on l'arrêtât,
« Arrière » cria-t-il au domestique qui barrait le passage. « Faites place au jeune maître de Douglas, ou malheur à vous. »«
Arrêtez-le !» cria Williams. « Qu'on le saisisse, mort ou vif. Faites feu sur lui, tuez-le comme un chien. »
Deux ou trois soldats, n'osant désobéir à Williams, firent semblant de poursuivre son frère. Puis on entendit quelques coups de feu et une voix qui criait que George Douglas venait de se précipiter dans le lac.
« Il s'est donc échappé ?» s'écria Williams.
Marie Stuart respira et la vieille lady leva les mains au ciel.
« Oui, oui !» murmura Williams. « Oui, remerciez le ciel de la fuite de votre fils, car sa fuite couvre de honte toute notre maison. » « Car à compter de cette heure, nous serons regardés comme les complices de sa trahison. »«
Aie pitié de moi, Williams !» s'écria Lady Lochleven en se tordant les bras.
« Au nom du ciel, aie pitié de ta vieille mère! Ne vois-tu pas que je me meurs ?»
À ces mots, elle se renversa en arrière, pâle et chancelante. L'intendant et un domestique la retinrent dans leurs bras.
Je crois, mylord, dit Mary Seton, s'avançant, que votre mère a autant besoin en ce moment de soins que la reine a besoin de repos. Ne jugeriez-vous pas qu'il est temps de vous retirer ?
Oui, oui, dit Williams, pour vous donner le temps de filer de nouvelles toiles, n'est-ce pas, et de chercher quels nouveaux moucherons vous pouvez y prendre. C'est bien, continuez votre œuvre, mais vous venez de voir qu'il n'est pas facile de tromper Williams Douglas. Jouez votre jeu, je jouerai le mien.
Puis, se retournant vers les domestiques, « Sortez tous !» ajouta-t-il. « Et vous, venez, ma mère !» Les serviteurs et les soldats obéirent. Puis William Douglas sortit le dernier, soutenant Lady Lochleven, et la reine l'entendit fermer derrière lui et à double tour les deux portes de sa prison. À peine fut-elle seule et certaine qu'elle n'était plus regardée ni entendue, que toute sa force l'abandonna et que, se laissant aller sur un fauteuil, elle éclata en sanglots. En effet, il lui avait fallu tout son courage pour se soutenir jusque-là, et ce courage, c'était la vue seule de ses ennemis qui le lui avait donnée. Mais à peine furent-ils sortis que sa situation se présenta devant elle dans toute sa fatale rigueur. Détrônée, prisonnière, sans autre ami dans ce château imprenable, qu'un enfant auquel elle avait fait attention à peine et qui était le seul et dernier fil qui rattachait ses espérances passées à ses espérances à venir, que restait-il à la reine Marie Stuart de ses deux trônes et de sa double puissance ? Son nom, voilà tout, son nom avec lequel, en liberté, elle eut sans doute remué l'Écosse, mais qui, petit à petit, allait s'effacer au cœur de ses partisans et que, de son vivant, l'oubli peut-être allait couvrir comme un linceul. Une pareille idée était insupportable pour une âme aussi élevée que l'était celle de Marie Stuart et pour une organisation qui, pareille à celle des fleurs, avait besoin avant tout d'air, de lumière et de soleil.